Voilà, bonjour et nous entrons dans le quatrième dimanche de l'Avent, dont c'est l'année de Saint Matthieu. Je lis l'Évangile selon Saint Matthieu au premier chapitre. Voici comment fut engendré Jésus le Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus ». C'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, et il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas en train de célébrer la messe, mais c'est bien la parole du Seigneur que nous entendons. Je voudrais pour ce dernier dimanche de l'Avent, d'abord j'espère que vous avez bien profité samedi dernier, peut-être de la radiodiffusion ou de la télévision, sur la béatification des 50 martyrs des années 1944 et 1945, le sermon de Monseigneur du cardinal Hollerich du Luxembourg, mandaté par le pape Léon XIV, était très remarquable et j'ai noté qu'il était publié dans le Paris Notre-Dame de cette semaine. Donc ça vaut là encore la peine de ne pas tourner la page trop vite de cet événement qui nous apprend ce qu'est le courage dans une histoire pénible, le courage de suivre Jésus et d'aimer le suivre. Ce n'est pas simplement le courage, c'est la joie de suivre Jésus. Et c'était donc pour le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de Gaudete, réjouissez-vous. L'évangile de ce quatrième dimanche de Saint Matthieu mérite d'être là encore interrogé selon notre méthode de l'Église depuis toujours, avec beaucoup de finesse et beaucoup d'exactitude. Presque chaque phrase mérite d'être analysée pour bien recevoir ce qu'elle signifie. Et d'abord, de faire une comparaison avec l'évangile que nous connaissons beaucoup mieux, qui est celui de l'annonce à Marie. Nous le connaissons beaucoup mieux parce que c'est celui qui a engendré la salutation angélique, le « Je vous salue Marie » et le chapelet que nous venons de prier. Mais comment ça se passe sous la plume de Saint Luc? Très différemment de Saint Matthieu. Et il faut avoir presque le courage de dire qu'entre les deux premiers chapitres de Saint Matthieu et les deux premiers chapitres de Saint Luc, qui sont tous les deux consacrés à ce qu'on appelle les récits de l'enfance de Jésus, il n'y a pas une scène qui corresponde. Chacun des deux évangélistes, Saint Matthieu et Saint Luc, choisit un certain nombre de scènes et dans des scènes qui se ressemblent, ils choisissent des points de vue qui ne sont pas du tout les mêmes. Alors, il ne s'agit pas de les opposer, il s'agit de profiter de l'un et de l'autre. Comme on est habitué à Saint Luc, il faut faire attention à ne pas aligner Saint Matthieu sur Saint Luc, en disant, au fond, ils disent la même chose. On pense souvent comme ça. Je fais souvent ce travail avec les séminaristes de Paris depuis 30 ans, et chaque année, j'ai eu le même réflexe, vous exagérez, ça parle de la même manière. Et ils s'aperçoivent au bout de quelques jours, quelques semaines, que de fait, c'est pas pareil, et que c'est un avantage d'avoir plusieurs versions d'un même événement, c'est un avantage. Et ce n'est pas moi qui inspire les évangélistes, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, mettons-nous à l'école de ce que Dieu veut nous faire entendre. Quel est l'avantage de saint Luc? Et nous verrons l'avantage de saint Matthieu. L'avantage de saint Luc, c'est de nous faire partager, pendant les quatre premiers chapitres de cet évangile, de nous faire partager un point de vue divin. C'est-à-dire que ce sont les acteurs du ciel, divins, surnaturels, c'est-à-dire Dieu, des anges, le Saint-Esprit, qui interviennent auprès des personnages que nous connaissons bien, Marie, Joseph, Zacharie, Élisabeth, les bergers de la crèche, Jean-Baptiste, et à la fin Jésus lui-même. Tout nous est dévoilé sur l'identité et la mission de Jésus, mais tout est dévoilé de manière surnaturelle. Il n'y a que des visions, il n'y a que des apparitions, il n'y a que des oracles. L'avantage, c'est que c'est très sûr, ça vient du ciel. L'inconvénient, si j'ose dire, c'est que on a beaucoup de difficultés à transposer ce qui vient du ciel sur la terre. Par exemple, Luc ne s'intéresse pas à la manière dont Marie va faire connaître à son mari pourquoi et comment elle est enceinte puisqu'ils n'habitent pas ensemble. Saint Matthieu qui le précise. Dans saint Luc, Marie va tout de suite, après l'Annonciation, elle va tout de suite voir sa cousine Élisabeth, qui elle-même est inspirée par le Saint-Esprit, et on peut imaginer, mais c'est moi qui l'imagine, on peut imaginer que Marie et Élisabeth sont allées raconter ensemble à Joseph ce qui s'était passé pour que la rencontre avec l'ange puisse être crédible. C'est pas facile d'aller voir quelqu'un qu'on connaît bien en disant « j'ai rencontré un ange et voilà ce qu'il m'a dit qui allait m'arriver », surtout si c'est d'être enceinte. Essayez de raconter à quelqu'un que vous avez eu l'apparition d'un ange et vous allez voir comment vous serez reçu. On vous prendra quelquefois pour quelqu'un d'un peu cinglé. Ça n'est pas facile. Ce qui, dans l'évangile de saint Luc, va faire que Jésus, à partir du chapitre 4, une fois qu'il est adulte, doit repartir quasiment de zéro pour de nouveau annoncer l'évangile qui n'a été entendu que par quelques-uns et de manière extraordinaire. En d'autres termes, l'extraordinaire qui vient de Dieu doit rentrer dans l'ordinaire, nous qui sommes sur terre. Et il faut que l'extraordinaire s'emboîte dans de l'ordinaire. C'est très difficile. Et Jésus dira, au tout début de la deuxième partie, « un prophète n'est pas recevable dans sa patrie ». En gros, l'évangile, sous un certain point de vue, ça ne marche pas. Parce qu'il faut adapter la terre au ciel, et il faut que le ciel s'adapte à la terre. En d'autres termes, mes chers amis, le plan de Dieu, autant qu'on puisse le déchiffrer dans les évangiles, n'emploie rarement des choses extraordinaires. Même les miracles, les choses exceptionnelles interviennent, elles ont leur importance pour nous stimuler, mais ce n'est pas habituel. Vous voyez, par exemple, la vie de sainte Thérèse de l'enfant Jésus, que nous aimons beaucoup ici, en particulier, c'est une vie qui se passe principalement dans l'ordinaire. Il y a quelques événements extraordinaires, quelques-uns seulement, et tout se passe dans l'ordinaire. Et c'est très heureux, et c'est très brillant. Alors précisément, c'est le point de vue de saint Matthieu, qui intervient et il fait quelque chose que saint Luc ne fait pas et peut-être qui nous ouvre une voie qui est intéressante, c'est qu'il y a à la fois ce que Marie reçoit comme annonce de la part d'un ange et ce que Joseph lui aussi reçoit de la part d'un ange. Mettons que c'est le même. Quel est l'intérêt de ce processus? Eh bien, c'est que les deux protagonistes Joseph et Marie vont devoir parler ensemble. On va les voir se confronter ensemble au même mystère, et il va falloir que ensemble ils reçoivent ce que Dieu leur fait connaître et qu'ils le vivent ensemble, chacun selon sa vocation. Et je dis tout de suite quel est l'enjeu de cette pédagogie de saint Matthieu par rapport à saint Luc. C'est la nécessité de partager les uns avec les autres ce que Dieu nous donne de connaître de l'Évangile, de la charité, du soin du prochain, de la foi catholique, tout ce qui peut être de l'ordre de la prière commune, du partage, du catéchisme, de l'annonce de la foi, suppose que ceux que Dieu nourrit de la foi puissent non seulement répondre chacun à Dieu, mais puissent ensemble partager les dons de Dieu. On a médité tout à l'heure le mystère de la Pentecôte, le troisième mystère glorieux. La Pentecôte, on voit comment les apôtres ensemble vont se raconter les merveilles de Dieu avant de les raconter aux autres. C'est une sorte de partage en Église que l'on peut faire lorsqu'on crée des communautés paroissiales ou quand il y a des sanctuaires comme Notre-Dame des Victoires, où la confiance l'emporte sur l'individualisme et où on peut apprendre à partager les secrets de Dieu. Il me semble que l'évangélisation suppose qu'on puisse d'abord faire entre nous ce partage avant de l'annoncer à d'autres. Oui, donc c'est une autre réalité qui est très riche. Alors reprenons un petit peu l'évangile selon saint Matthieu. D'abord, on nous dit bien que Marie, sa mère, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Oui, ça, c'est la nouvelle traduction qui a maintenant quelques années. C'est la meilleure. Oui. Avant, on disait plus simplement qu'elle était fiancée. Ben, on dit toujours que les fiançailles, c'est fait pour être rompu, s'il le faut. Oui. Au temps de Marie et de Joseph dans la Judée du 1er siècle, ce n'est pas un pays imaginaire. Il y a des lois, il y a les lois romaines, il y a les lois juives, on les connaît à peu près parfaitement, et on sait que lorsqu'il y avait un accord, quand quelqu'un était donné, accordé en mariage à quelqu'un, ça pouvait être fait par les familles bien avant que les époux ne vivent ensemble, mais on les considérait comme étant véritablement mariés. Ce n'était pas du tout pour être dissous. Et s'il y avait une séparation, c'était considéré comme un divorce. Oui. Donc, Marie et Joseph sont embarqués dans un projet conjugal qui n'a pas encore été réalisé complètement, mais qui a été conclu. Après, on peut imaginer comment le bon Dieu s'y est pris pour organiser justement cette rencontre entre les deux alors que le projet était très original. Ça, c'est justement peut-être la délicatesse de Dieu qui fait que l'extraordinaire, donc l'amour de Dieu, eh bien, arrive à féconder sur terre de véritables relations pleines de beauté, pleines de lumière, pleines de paix, qui sont un véritable modèle. Même si Marie et Joseph sont deux personnes exceptionnelles, n'empêche qu'il reste un modèle pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre condition. Et ça, c'est très heureux. Et ça, c'est très heureux. Il y a quelque chose de divin et il y a quelque chose d'humain. Il faut penser que Joseph et Marie devaient effectivement s'accorder de manière très belle ensemble, et qu'il leur a fallu reconnaître que leur voix était originale. C'est ce que va dire saint Matthieu. Donc avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Vous voyez le problème, et on comprend que Marie soit allée consulter sa cousine Élisabeth parce que ce qu'elle avait entendu du ciel, un ange, vous avez vu un ange? Vous voyez, il n'y a pas que des plumes, hein, vous voyez. Donc était confirmée par sa parente, par sa cousine. Voilà, c'était beaucoup plus solide, c'était plus efficace. Et comme ça, elle va pouvoir en parler à son époux. Il y a un récit dans l'Ancien Testament qui est très drôle et qu'on a lu à la messe hier comme première lecture, mais on n'en a lu qu'un petit résumé. Je profite qu'on a quelques minutes ensemble pour vous donner le texte original. C'est dans le livre des Juges au chapitre 13e. C'est l'annonce à la maman de Samson. Alors, Manoah est un monsieur qui est marié avec sa femme, dont on ne sait pas le nom, mais ça fait rien, on n'en a pas besoin. Et depuis quelques années, ils sont mariés et n'ont pas d'enfants. Mais c'est un problème pour eux et ils prient Dieu d'en avoir un, mais enfin, ça ne vient pas. Et puis un jour, ils sont à travailler au champ et voilà qu'un ange, ça pourrait être le même ange, Gabriel, qui semble spécialisé dans les annonces de ce genre, un ange annonce à cette femme, comme pour Marie, qu'elle va être enceinte. Elle va avoir un fils et donne des consignes sur la vocation de cet enfant qu'elle devra appeler Samson. Et alors, la femme, dans le livre des Juges, va trouver son mari et la Bible nous dit, elle lui dit, Manoah, j'ai vu un ange qui m'a dit que j'allais être enceinte ou que j'étais enceinte. Vous pensez bien que Manoah n'est pas très content. Et il dit, mais qui est ce monsieur? Alors l'autre, je ne sais pas, il m'a dit que notre enfant serait un prophète et qu'il aurait une grande mission en Israël. Manoah est un bon garçon et il dit à sa femme, si jamais ce monsieur revient, tu me préviens tout de suite. Et comme Dieu est délicat, l'ange revient visiter cette femme et elle, obéissante à ce qu'elle avait projeté, court vers son mari pour dire, Manoah, le monsieur, l'ange est là, mais un messager, il n'a pas forcément, encore une fois, d'apparence extraordinaire. Alors Manoah arrive, c'est toi qui as dit à ma femme qu'elle allait être enceinte? Alors l'ange dit exactement et il recommence l'annonce à Manoah qu'il avait déjà faite à sa femme. Et pour prouver que ça vient de Dieu, le messager s'envole dans une flamme de feu, manifestant que c'est bien de Dieu qu'il vient. Alors là où la scène devient très drôle, c'est que l'homme et la femme, devant cette manifestation surnaturelle, se prosternent à genoux, à plat ventre. Et Manoah dit à sa femme, « C'est terrible, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Entre Dieu et son ange, c'est à peu près la même chose. Et la femme, qui est toujours prosternée, dit à son mari, « Peut-être pas, puisqu'il m'a dit que j'allais être enceinte. » « Ah bon ?» Alors, ils se relèvent, s'aperçoivent que tout va bien, et selon la promesse de l'ange, ils vont avoir un enfant qui sera Samson. Mais vous voyez toutes les difficultés pour les jeunes parents d'accueillir une annonce qui vient de Dieu et d'arriver à la partager et de reconnaître ce qui va devenir le grand mystère de l'incarnation, le grand mystère de Noël, que Dieu vient vraiment se mêler de nos affaires pour apporter des guérisons, pour apporter du bonheur, pour trouver des solutions lorsque la vie semble bloquée. Voilà pour cet enracinement dans l'Ancien Testament. Et donc, on nous dit, je reviens au texte de saint Matthieu, Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement et décide de la renvoyer en secret. Alors, beaucoup de commentateurs anciens, et notamment dans les évangiles apocryphes, ont fait de Joseph quelqu'un qui ne comprenait pas et même quelqu'un qui doutait. Alors là, je crois qu'il faut préciser les choses. Je ne pense absolument pas que Joseph ait douté de ce que lui a raconté Marie, assistée d'Élisabeth.